Alors, ce matin, j'aimerais voir avec vous un épisode assez tragique du peuple d'Israël. C'est l'épisode de Kadesh Barnéa. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Voilà, on n'appelle pas les villages en France Kadesh Barnéa parce que c'est un mauvais souvenir dans la Bible. Hein. Voilà. Mais il y a des leçons à tirer de cet épisode qu'on va un peu expliquer, et des leçons pour nos vies et pour la vie donc du peuple de Dieu. Alors cette histoire, c'est l'histoire du peuple qui arrive à la porte de la terre promise après 2 ans d'errance ou du moins de conduite dans le désert. Hein. Et il y a donc 2 récits. Le premier se trouve dans Nombre 13 où il est dit que l'Éternel parla à Moïse. Et lui dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père et chacun d'eux sera un prince. Et puis nous avons un deuxième rappel qui est dans Deutéronome 1, verset 22, où nous pouvons lire, c'est Moïse qui dit, vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Et cet avis, dit Moïse, me parut bon. Je pris donc 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les petites différences qu'il y a. Hein. Dans le livre de Nombre, c'est Dieu qui envoie avec une promesse. Et dans le livre donc de Deutéronome, c'est Moïse hein, qui on a l'impression que c'est une démarche humaine, une stratégie. On a parlé de stratégie tout à l'heure, on a entendu ce mot, une stratégie de l'homme. Hein. Alors certains y voient d'un côté le projet humain qui passe avant celui de Dieu, donc ce qui expliquerait l'échec de Kadesh Barnéa, et d'autres verraient plutôt la suggestion que des gens ont parlé de cette idée, et puis Moïse l'a apprise, et puis il a consulté Dieu, et que Dieu a validé cette idée. Hein. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes environ à 2 ans après la sortie de l'Égypte. Et je pourrais dire, on peut imaginer la crainte quelque part, mais aussi nous attendre à vraiment un enthousiasme et de l'effervescence de la part d'un peuple qui va enfin recevoir ce qui lui a été promis. Noël arrive, hein. Bon, on n'est pas à Noël, mais hein, voilà, c'est vraiment le super cadeau, la bénédiction de Dieu. Alors Dieu va donner une terre qu'aucun Israélite n'a encore vue. Et on peut imaginer ces projections et ces échanges entre eux. Ils savent seulement une chose concernant cette terre. C'est la terre, bien sûr, qui a été donnée à Abraham, sur laquelle Isaac a vécu, et Jacob, les patriarches. Mais ils savent que c'est un pays découlant de lait et de miel. Ah, c'est formidable, hein? Et Ézéchiel nous dit, c'est un pays découlant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Ah, on pourrait même faire une chanson, là, hein? Alors, voilà une récompense absolument extraordinaire, un cadeau, une promesse que Dieu a faite. Et voilà que cette initiative d'envoyer les espions a mal fini. Très mal fini. Jusqu'au point où Dieu a rejeté toute une génération parce qu'ils n'ont pas cru. Alors si Dieu est bon, si le pays est bon, alors pourquoi l'échec de Kadesh Barnéa? Alors pour comprendre cela, il faut d'abord regarder les étapes qui ont mené le peuple jusqu'à cet échec. Et ça, c'est intéressant parce que en lisant les 2 chapitres avant le chapitre 13 du livre des Nombres, et je vous invite à le faire si vous avez un petit moment, on voit qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très claires, hein. On dirait pas très catholiques. Hein. Je ne sais pas si les catholiques disent pas très protestants, mais en tout cas, c'est pas clair. Hein. Ils pourraient le dire, pourquoi pas, hein. D'abord, on commence donc avec Nombre 11, où il est dit qu'un ramassis de gens, alors d'où est-ce qu'ils viennent? En fait, c'est une bande, un rassemblement, des agités. Hein. Voilà, il y en a qui manifestent, hein, et ces manifestations ont commencé déjà au temps de Moïse. Mais eux, en fait, se trouvaient au milieu du peuple d'Israël, et ils furent remplis, donc ce ramassis de convoitises, Et même les Israélites commencèrent à pleurer. Alors, je ne vais pas vous le faire en pleurant, mais vous imaginez la scène, hein. Qui nous donnera de la viande à manger? Qui? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Hein. Plus rien. Nos yeux ne voient plus que de la manne. Ah. C'est terrible, hein? Comment un groupe de personnes a réussi à influencer tout un peuple et ils ont commencé à pleurer. Évidemment, Moïse est troublé. Hein? Pas un restaurant à 10 000 lieues, hein? Tout est fermé en plus. Hein? Je ne sais pas quel jour c'était, mais en tout cas, c'est compliqué. Et bien sûr, Moïse est troublé par cette revendication. Il va voir Dieu. Et lui soumet, voilà, cette tension. Et Dieu dira, eh bien, voilà ce que tu vas faire, Moïse. Tu vas dire au peuple, eh bien, qu'ils vont se sanctifier, puisqu'ils ont dit, qui nous fera manger de la viande, hein? Car nous étions si bien en Égypte, nous dit donc, ici, donc, au chapitre 11 de Nombre. Et voilà ce que Moïse doit leur dire. Oh, vous en mangerez de la viande. Non pas un seul jour, ni deux, ni cinq, ni dix, ni vingt jours, mais vous allez en manger un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte des narines ou qu'elle vous soit indigeste. Le menu n'est pas top, hein? Bon, parce que, dit l'Éternel, parce qu'en réalité, vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré en disant devant lui, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Hein? Vous savez, la nourriture, c'est vraiment un point où il y a beaucoup de plaintes. Hein? Hein? C'était vraiment voilà, dans les camps, dans les réunions, dans les rencontres. Il y en a toujours un qui va soulever la marmite et qui va dire « Ouais, c'est pas bon ce qu'on mange. Hein? » Voilà, on ne dit pas « c'est pas bon ». On dit « je n'aime pas ça ». Parce que c'est pas bon. Non, on dit « je n'aime pas ça ». Hein? Alors Moïse lui-même est assez inquiet. Parce qu'il se pose la question, mais qui va fournir de la viande à ce peuple? 600 000 hommes, alors on estime à 2 millions d'individus, hein. Et Moïse pose la question à Dieu. Égorgera-t-on pour eux, donc du menu et du gros bétail, en sorte qu'ils en aient assez? En d'autres termes, est-ce qu'on va dilapider notre bétail pour satisfaire une faim? Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non, ce que je t'ai dit arrivera. Alors Dieu, donc nous dit le texte, envoya un vent, donc Nombre 11, et le vent a ramené des cailles et des cailles et des cailles au point que le sol du camp des Israélites en était rempli. Et il est dit au verset 33, comme la viande était encore entre leurs dents, alors ils sont empressés de les attraper, de les, voilà, de les préparer, hein, d'enlever, voilà, tout ce qui gêne à une bonne cuisson et de les manger. Il est dit, comme la viande était encore entre leurs dents, sans être mâchée, là, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et il frappa le peuple d'une très grande plaie. Ah! Ça, c'était au chapitre 11. Après, ça continue. Au chapitre 12, nous voyons un autre épisode, c'est Myriam et Aaron. Alors, eux, ils ont décidé de ne pas être très d'accord avec Moïse, qui a épousé une Cushite, alors une Éthiopienne. Alors, ce mariage mixte n'a pas été accepté par le frère et la sœur de Moïse. Et ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? En gros, pour qui se prend ce Moïse, hein? Il pense que tout lui est permis. Ici, c'est l'autorité que Dieu a donnée qui va être remise en question. Moïse va être critiqué et accusé de s'être marié avec une non-israélite. La réponse de Dieu, eh bien, ça va être une réprimande envers Myriam, parce que certainement c'est Myriam qui a commencé à un peu chauffer Aaron pour dire « Écoute, regarde ce que fait notre frère. » Et il les a convoqués, et il est dit au verset 10, donc de Nombre 12, la nuée se retira après que l'Éternel ait parlé, et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Pour souligner la gravité de cette offense, Dieu va frapper Myriam. Alors Moïse va intercéder et le peuple doit attendre une semaine pour qu'elle soit purifiée. Alors, je me suis posé une question que je vous transmets, même plusieurs questions. Combien de fois par jour te plains-tu? Peut-être combien de fois par heure? À quel moment de la journée? Le matin bonne heure, ou le soir très tard, ou tout au long de la journée, à quelle occasion? En d'autres termes, sommes-nous conscients que les murmures et les plaintes peuvent avoir un effet dévastateur sur nous et notre entourage? Sommes-nous conscients que les murmures et les plaintes affaiblissent notre foi et coupent la relation de paix avec Dieu? Sommes-nous conscients qu'il y a aussi des étapes qui mènent à cet échec? Israël, dans le désert, se plaint à tel point que ça en est devenu une habitude et que, au début de ce livre du Nombre 11, puisque c'est là où il y a les éléments qui vont nous activer, au début du Nombre 11, il est dit que le peuple murmura, alors c'est pas ici, que le peuple murmura et que ça déplut à l'Éternel, et lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma et dévora parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Là, il ne nous est rien dit sur la cause des murmures, mais en tout cas, on a l'impression que c'est une habitude ancrée parmi le peuple dans le désert. Pourquoi l'échec de Kadesh Barnéa? Eh bien, on a dit que c'était une succession de choses qui se sont accumulées comme les murmures qui vont, depuis l'Égypte déjà, qui vont affaiblir le peuple devant la prise de la terre promise. Kadesh Barnéa va devenir donc le point d'orgue d'une longue série d'échecs de la part des Israélites. Alors, si Dieu est bon et si le pays est bon, pourquoi cet échec? Eh bien, on l'a expliqué par les murmures, mais il ne s'explique pas que par cela aussi. Le deuxième point, c'est que le départ, dès le départ, les Israélites ne discernent ni la présence et ni les actions de Dieu dans leur vie. Les espions sont partis. Ils vont prospecter pendant 40 jours. Avec quoi est-ce qu'ils reviennent? Eh bien, Nombre 13, 23 nous dit: ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux, alors je ne sais pas si vous avez cette récolte, hein. Bon, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Avec quoi reviennent-ils? En vérité, ils reviennent avec des preuves. La preuve que ce que Dieu a dit est vrai. À tel point que ça a dû être impressionnant de voir des hommes porter à deux une grappe. Et là, à leur arrivée, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se rendent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute la communauté des Israélites. À Kadesh Barnéa, ils sont dans le désert et ils vont faire un rapport, donc ainsi qu'à la communauté, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voilà la preuve qui est mise devant eux. Ce que Dieu a dit est donc vrai. Il n'a pas menti. Une preuve matérielle démontre que ce pays est un pays de bénédiction. Dieu veut que les Israélites sachent que ce pays est une terre riche et abondante, comme il leur a dit. Cela vaut la peine d'y aller. Cela vaut la peine de se battre. Cela vaut la peine de conquérir ce pays. Avant les 12 espions, aucun Israélite ne savait ce qu'était la terre promise. Et le rapport confirme bien la fidélité de Dieu. Cette terre est fertile et bonne. Alors les espions, tous sont d'accord. C'est un pays de miel et de lait. En abondance, il pourrait ajouter, comme Ézéchiel l'a dit, c'est le plus beau pays du monde. Leur description ne diffère pas. Ils sont d'accord avec cela. Ils sont même d'accord que ce pays est habité. Il est habité par quelques tribus qui sont là, des petites nations. Hein. Mais, ils vont différer dans leur interprétation. Vous voyez, on peut voir la même chose. On peut y voir la main de Dieu ou y voir que des problèmes. Ah, qu'est-ce que nous voyons ? Verset 28, voilà ce qu'ils disent. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons même vu des enfants d'Anak. Alors les enfants d'Anak, voilà, ils avaient vraiment, enfin, voilà, lors des visites médicales, voilà, la tige n'était pas assez grande pour mesurer hein, leur hauteur. Alors voyant que ils ont transmis cette information, eh bien, Caleb va rajouter quelque chose. Caleb voit que le peuple est en train de commencer un peu à s'affoler. Caleb, au verset 30, nous dit le texte de Nombre 13, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas y monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Voilà d'un côté Caleb et Josué qui mettent l'accent sur Dieu nous l'a donné. Et voilà 10 qui disent, mais non, c'est impossible. Alors peut-être on aurait dit, mais surtout il ne fallait pas envoyer des espions. Parce que les problèmes ont commencé là, n'est-ce pas ? Eh bien, je pense qu'on se trompe en disant cela. On peut penser que cela a été volontairement choisi par Dieu, voulu par Dieu, afin que justement les Israélites saisissent la grandeur de la mission qu'ils ont à accomplir. Vous savez, une mission qui est facile à accomplir, c'est pas une mission. Une vie chrétienne qui est facile à vivre n'est pas une vie chrétienne. La mission est difficile. La vie d'église est difficile. Notre vie dans les épreuves est difficile. Les relations sont difficiles. En clair, ce que Dieu veut, c'est que les Israélites saisissent l'impossibilité de cette conquête. Oui, cette conquête est impossible. C'est vrai. Mais ils veulent que Dieu veut qu'ils comprennent que la prise de Canaan serait l'ordre du miracle. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que si ce n'était pas de l'ordre du miracle, ce serait le combat de l'homme. Mais en réalité, c'est le combat de Dieu. Et tout à l'heure, Blandine nous l'a très bien expliqué. Hein, il y a des combats spirituels qui dépassent l'homme. Les meilleures stratégies ne fonctionnent pas si Dieu n'intervient pas. Pourquoi l'échec, donc, de Kadesh Barnéa ? Eh bien, parce qu'il y avait des étapes avant cela. C'est pas tombé d'un coup, hein. Parce que Dieu voulait a montré qu'ils n'ont pas discerné l'œuvre de Dieu. Et puis une troisième chose aussi, c'est que le problème de ce peuple, c'est qu'ils avaient une conception étroite et petite de Dieu. La vraie différence entre les deux espions et les 10, hein, entre Caleb, Josué et les 10, réside dans leur vision de Dieu. Les deux espions ont regardé ce que Dieu peut faire. La victoire est à lui. Leur Dieu est le Dieu qui a triomphé de l'Égypte, de Pharaon et de tous les dieux égyptiens. Leur Dieu est le Dieu qui a triomphé de l'empire le plus puissant, encore plus puissant que les Cananéens. C'est le Dieu de l'impossible. Par contre, les 10 espions et le peuple, eh bien, ont compté sur leur propre capacité. Ils ont été atteints, ils sont atteints d'amnésie spirituelle. Ils ont oublié ce que Dieu a fait à Pharaon. Ils ont oublié les 10 plaies que Dieu a infligées de manière ciblée contre les Égyptiens et non contre les Israélites. Ils ont oublié que lorsqu'ils étaient coincés devant la mer Rouge, face à eux, l'armée, derrière eux, la mer, eh bien ce Dieu a ouvert la mer. Et il a renfermé cette même mer sur l'armée de Pharaon. Plus tard, ils ont vu la présence régulière, quotidienne de Dieu, à travers l'eau qui a été donnée, la manne, à travers la nuée de jour et la colonne de feu la nuit. Et pourtant, ils ont oublié la fidélité et la bienveillance de Dieu. On peut faire aussi un parallèle avec nos Canaan à nous. nos propres défis. Quelle conception as-tu de Dieu ? Et c'est vrai que ce matin, on peut être reconnaissant à Dieu pour tous les textes que Étienne a lus. Il aurait pu les lire. Alors pour ceux qui ont cherché, c'est un peu compliqué, hein ? Mais c'est ça la grandeur de Dieu. Les textes sont là, son œuvre est là. Mais mon frère, ma sœur, de quoi nous souvenons-nous ? De quoi tu te souviens ? Est-ce que maintenant, là, nous pouvons citer les délivrances de Dieu dans notre vie ? Ou alors nous les avons oubliées ? Ou plutôt devons-nous réfléchir, attends deux secondes, hein ? Un jour, on demandait à un homme comment s'appelait sa femme, il a dit, attends, je réfléchis. Il était jeune, hein, il n'était pas atteint de je ne sais quoi. Hein ? Est-ce que nous nous souvenons des délivrances de Dieu ? Ou nous les avons rangées quelque part dans les archives de notre mémoire ? Dieu a pris soin non seulement des Israélites dans le désert, mais aussi du bétail. Moi, je ne sais pas comment ce bétail a pu manger. Dieu est bon, il est fidèle. Et la réponse des Israélites devant cette terre promise à Kadesh Barnéa est une réponse terrible et tragique. Toute la communauté a crié et toute la communauté a pleuré cette nuit-là. Et tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, si seulement nous avions péri dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous a-t-il amenés dans ce pays pour nous faire tomber par l'épée, afin que nos femmes et nos enfants deviennent pilleurs ? Ne serait-il pas préférable pour nous de retourner en Égypte ?» Alors ils dirent, nommons un chef parmi nous et retournons en Égypte. Le peuple pleure devant la bénédiction. Il ne pleure pas de joie. Il pleure de plaintes et de déceptions. Il parle même de retourner en Égypte et de choisir parmi eux un autre leader. Alors Moïse et Aaron vont bien sûr intercéder, interpeller le peuple. Et ils disent, mais écoutez, regardez, si l'Éternel nous est favorable, si Dieu est avec nous, qui est contre nous ? Il nous fera entrer dans ce pays, nous donnera un pays découlant de lait et de miel. Seulement, s'il vous plaît, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. C'est nous qui les mangerons, pas eux. Hein ? Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils ont déjà perdu. Ils ne le savent pas, mais ils ont déjà perdu. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Et que fait le peuple ? Eh bien, il va. Le texte nous dit qu'il a commencé à réfléchir, à lapider les serviteurs de Dieu. Quelle tragédie ! Quelle triste histoire ! Alors Dieu, eh bien, va faire errer toute cette génération pendant 40 ans. Les 38 années qui viennent, parce que cette génération, eh bien, a été rejetée par lui. Et des 10 espions qui ont fait un rapport négatif sur la possibilité de prendre ce pays, eh bien, nombre 14, verset 37, nous est dit, « Ces hommes qui avaient âprement décrié le pays moururent, là, frappés d'une plaie devant l'Éternel. » Aïe. Si Dieu est bon, et si ce pays est bon, alors pourquoi l'échec de Kadesh Barnéa ? Parce qu'il y avait toute une succession de murmures. Parce qu'au départ, ils n'ont pas discerné que ce Dieu majestueux allait continuer avec eux. Et parce qu'ils avaient une conception limitée de Dieu. J'aimerais tirer 5 leçons assez rapides de Kadesh Barnéa, de nos Kadesh Barnéa à nous. N'est-ce pas ? Eh oui, nous aussi, nous avons nos doutes, nos luttes, nos incrédulités, hein ? Nos murmures. Aïe, aïe. Qu'est-ce que cet épisode nous apprend ? Eh bien, tout d'abord, il nous apprend que nous tombons rarement dans le péché par accident. Hein ? C'est jamais un accident, le péché, finalement. Hein ? Mais c'est une succession de choses que nous tolérons dans nos vies. C'est cela le péché. Quand nous nous mettons en colère, Réfléchissez. Il y a quelque chose qui a déclenché la colère dès le matin, et puis autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Et nous avons entretenu des pensées, et il suffit de tomber sur le premier gars qui est devant nous pour lui rentrer dedans. Oui, le premier gars ou notre conjointe, ou notre conjoint, je ne sais pas. Et voilà qu'on ressasse et qu'on ressasse. Ça ne sort pas d'un coup tout seul. Hein. Il y a quelque chose avant. Il y a, vous savez, la face cachée de l'iceberg, mais il est là. Cette partie cachée, elle est là. Nos amertumes. Des fois, on se trouve amer, mais d'où ça vient? Parce qu'en réalité, nous avons commencé à ressasser le passé, des choses que nous n'avons pas réglées, et ça revient. Et d'un coup, nous voyons, nous sommes en train de murmurer. Le péché est très rarement un accident. La médisance aussi, qui fait pas mal de dégâts, qui a ses sources. Vous savez, il y a une spirale dangereuse. Les personnes qui sont addictes, par exemple, à la pornographie, ne tombent pas dans ce piège par la curiosité ou ayant des pensées impures comme ça. C'est une succession de choses entretenues qui font que ça les rend beaucoup plus fragiles, comme d'ailleurs toutes les addictions. Jacques 1,14 nous dit « Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et sa propre convoitise le séduit. Et la convoitise, elle est conçue. Et elle enfante le péché, et le péché engendre la mort. C'est un processus. On ne pêche pas comme ça d'un coup. Je pense au gars qui a giflé le président de la République. C'est pas venu comme ça d'un coup, il sortait pas d'un hôpital psychiatrique. Hein. Il a dû ressasser cela, et quand il s'est trouvé devant, d'un coup, il a dit « c'est venu ». Voilà, fermez la parenthèse, on va pas mettre ça en enregistrement. La deuxième des choses, la leçon, c'est sur quoi repose notre analyse de la situation. Quand nous avons des défis, des choses terrifiantes et angoissantes, est-ce que ça repose sur notre analyse, notre intelligence, ou ça repose sur les promesses de Dieu? Le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile. D'ailleurs, C.S. Lewis, on lui a posé la question un jour, on partageait ça cette semaine, je ne sais plus avec qui, on lui a posé une question, oui, mais le christianisme, c'est quand même facile, hein, tranquille comme religion. Elle dit, non, lisez bien le christianisme, ce n'est pas facile. D'ailleurs, si nous l'avions inventé, nous l'aurions rendu moins difficile. Moi, j'aurais enlevé quelques versets. Mais c'est moi, hein, le Seigneur, lui pense autrement. D'ailleurs, le verset de Blandine est extraordinaire, hein, si on aime que les gens qui nous aiment, c'est tellement facile. Hein. Eh oui. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. La conquête de Canaan ne sera pas une conquête facile. Oui, les Cananéens sont forts. Oui, ils sont plus organisés. Tout à fait. Ils sont terrifiants avec les géants. Ils sont intelligents, capables de construire des villes fortifiées et grandes. Ils sont encore plus préparés à se défendre que les Israélites. La tâche n'est pas facile. Cet épisode, c'est curieux, elle est mentionnée plusieurs fois dans la parole de Dieu. 10 fois, comme pour nous rappeler les 10 commandements, hein, le nom de Kadesh Barnea apparaît. 10 fois. Cela montre que sans le Seigneur, mon frère, ma sœur, sans le Seigneur, nous sommes dépassés, épuisés, découragés. Même devant les meilleures bénédictions que Dieu nous réserve. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est dans ce sens-là que Jésus dit ce verset dans Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Être découragé, c'est humain. Bien sûr. Josué était découragé. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Comme j'étais avec Moïse, Josué, je serai avec toi. Quand vous lisez le premier chapitre de Josué, on voit un homme qui est découragé. L'homme de foi qui a défendu un des 2 espions. Le découragement est humain. Mais le découragement permanent que nous nourrissons devient un poison. Avec quel regard analysons-nous les choses? Notre intelligence ou le regard de Dieu? 3e leçon que je vous invite à voir, c'est, il y a dans nos vies des périodes où on doit se contenter que de manne et d'eau. Ah! Vous savez, on peut se demander, est-ce que leur demande de viande est-elle légitime? Honnêtement, moi j'aurais demandé ça. Avant eux peut-être, je ne sais pas. Eh oui, il y a quelque chose de légitime quand même, on se lasse de manger toujours la même chose. Mais le problème c'était que En fait, c'est pas un régime idéal, hein, manger de la manne et boire de l'eau, hein. On est d'accord avec ça. Le problème, c'était que cette période est une période de transition. Vous savez? Pour les Israélites, c'était le temps où ils devaient apprendre quelque chose. Et leur plus grand besoin, leur plus grande faim et soif était de compter sur le Seigneur. Ils pouvaient apprendre à se contenter de peu. Et parfois, Dieu nous fait passer dans des périodes où il nous enlève des provisions. Pourquoi ? Pour que nous apprenions à nous contenter de peu. Ça ne veut pas dire qu'il va nous dire, allez, maintenant, ceinture, et de toute votre vie, vous allez être comme ça, hein, aux Israélites. Mais Paul l'a tellement bien dit, hein, je sais vivre, dit-il, dans l'abondance comme dans la disette. Et c'est intéressant dans Philippiens 4, c'est je sais, j'ai appris. Ça veut dire qu'il a été enseigné par Dieu. On est tellement dans le confort. Nous détruisons la terre, c'était le sujet de l'introduction de Tienne, hein, et il a raison. Nous détruisons la terre pour notre confort. Nous faisons voyager des bateaux dans les deux sens pour les mêmes produits. Nous creusons, nous abîmons ce monde pour être tranquille à l'ombre de nos maisons et de nos villes. Aïe! Il y a beaucoup de choses à apprendre dans certaines restrictions. Paul dit, j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre, c'est-à-dire j'ai appris à vivre dans l'humiliation. J'ai appris à vivre dans l'abondance. Et tout, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Parfois, nous devons faire un jeûne. Un vrai jeûne, une restriction de quelque chose pour en mesurer la valeur. Et honnêtement, de vous à moi, on n'a pas besoin de tous ces objets pour vivre. Vous êtes d'accord? Hein? Il faut apprendre. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous dire. Avons-nous appris à faire quotidiennement confiance à Dieu concernant nos besoins? Donne-nous notre pain de ce jour. Mais Seigneur, c'est moi qui vais acheter le pain, il ne tombe pas du ciel. Et puis du pain, il y en a tellement qu'on en jette. On devrait le mettre à part pour nourrir les animaux. On est tellement dans cette surabondance. En réalité, quelqu'un a dit, et je suis absolument d'accord, ce sont les épreuves et les difficultés de cette vie qui nous donnent faim du ciel. Avons-nous vraiment faim du ciel, mon frère, ma sœur? Je plains sincèrement ceux qui n'ont pas faim du ciel. Et tout à fait, même de manière basique, je crains sincèrement ceux qui n'ont pas connu ce qu'est la faim, la soif, les difficultés et la restriction. Il y a dans nos vies des périodes où on doit se contenter de manne, que de manne et d'eau. Et les Israélites n'ont pas appris. Ils en voulaient plus. Et le temps du plus n'était pas venu pour eux dans le désert. Quatrième leçon et avant-dernière que je vous invite à méditer, c'est que dans les moments critiques de nos vies personnelles ou d'église, nous avons tort de penser que Dieu veut notre malheur ou qu'on est maudit par lui. Vous savez, des fois, il nous arrive une tuile. La première des choses, c'est ça y est. Dieu veut mon malheur. Les Israélites, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Ah, il veut notre malheur. Il nous a amenés ici pour nous laisser périr. C'est exactement cette réflexion des fois que nous avons. Et je crois que nous devrions demander pardon à Dieu. Parce que le peuple n'a pas réellement demandé pardon à Dieu. Quand nous lisons l'histoire, ils vont retourner, voilà, faire la conquête eux-mêmes, et vont se prendre une tannée, que, hop, ils ont dit, c'est bon, on arrête là. Hein. On a assez fait de dégâts comme ça. Israël a murmuré. Israël a exigé. Il s'est rebellé. Mais en réalité, Dieu a continué à les aimer et à les porter. Deutéronome 1:31, il est dit, au désert, c'est au désert que tu as vu l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a porté comme un homme porte son fils sur tout le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas qu'il veut faire périr ce peuple. Le problème vient de l'homme. Le problème vient de nous. Pourquoi nous arrive-t-il ça? Pourquoi ceci? Pourquoi nous arrive-t-il cela? Nous avons tellement péché. Mais c'est certainement la voie que Dieu veut que nous prenions. Les péchés, ce qui est beau, n'effacent pas les promesses de Dieu. C'est merveilleux, non? Les péchés de ce peuple n'ont pas effacé les promesses de Dieu. Dans nos vies, il y a la possibilité du pardon pour revenir. Pardon que les Israélites n'ont pas pris en compte. Et Dieu ne fera jamais l'inventaire de nos péchés pardonnés. Si l'incrédulité a empêché cette génération de rentrer, heureusement qu'elle n'a pas contrecarré les plans de Dieu. C'est la génération suivante qui va bénéficier de cette bénédiction. Notre infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu. Et Paul le dit, hein, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si Dieu a une bénédiction pour toi, pour moi, pour nous, si nous ne la prenons pas, Dieu donnera cette bénédiction à quelqu'un d'autre. Elle est là, cette bénédiction. Est-ce que nous allons la saisir ou pas? Dans les moments critiques de nos vies, personnelles ou d'église, ne pensons jamais que Dieu veut notre malheur ou veut nous maudire. Le dernier point, nous avons impérativement besoin de changer et de réformer notre vision de Dieu, ou de la cultiver. Ce matin, on a parlé du Dieu souverain. Amen, on est d'accord avec ça, non? Dieu est-il souverain? Oui, amen, il est souverain. Mais comment est-ce qu'on va transposer ça dans notre vie de tous les jours? Aïe! Demain sera-t-il aussi souverain qu'aujourd'hui? Oui, mais demain, il n'y aura pas les frères et sœurs, il n'y aura pas Étienne qui nous dira ça, hein? Il n'y aura pas la louange, etc., etc. Eh oui, quoi de mieux pour chacun d'entre nous que de méditer sa parole pour concevoir ce qu'est sa souveraineté? J'aime beaucoup cette citation, ces réflexions de James Baker que j'ai projetées, que proposé à la réunion de jeudi dernier, où il dit ceci, la méditation consiste à se remémorer de tout ce que l'on connaît des œuvres, des voies, des buts et des promesses de Dieu pour y réfléchir, s'y arrêter en trouvant pour soi-même une application. C'est un débat intérieur, une démarche spirituelle qui nous permet de nous arracher peu à peu au doute et à l'incrédulité et de parvenir à une perception de la puissance et de la grâce de Dieu. Avons-nous une perception de la puissance et de la grâce de Dieu telle que la Bible nous le propose? Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la conclusion, c'est cette promesse que Dieu a faite à Josué. Chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Toi, espion, qui était plein de foi et qui a pris ma promesse à la lettre. Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Mon frère, ma sœur, l'Éternel sera avec nous dans cette rentrée qui va venir, la semaine qui vient, et les autres jours. L'Éternel sera avec nous dans nos sujets de prière. Il sera avec nous dans nos difficultés, comme dans nos joies. L'Éternel sera avec nous dans les nouvelles étapes de notre vie. L'Éternel sera avec nous dans notre témoignage de son nom, comme aussi dans notre sanctification. Est-ce que tu crois cela? Crois-tu cela? Moi, je le crois, parce qu'il le dit. Nous avons encore à conquérir des domaines spirituels, tant dans nos vies personnelles que communautaires. Des obstacles, des difficultés, des tuiles sur notre tête ne manqueront pas de tomber. Mais ne nous laissons pas impressionner par ces géants, comme Josué, faisons confiance dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.